Frères et sœurs bien-aimés, le saviez-vous, vous êtes tous des prophètes. Oui, parce que par notre baptême, Dieu nous a établis pour témoigner de notre foi, par la parole certes, mais plus encore par notre vie. Peut-être cela vous paraît-il évident ou pas, mais dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, cette prophétie était souvent réservée à quelques-uns qui avaient reçu l'Esprit du Seigneur, tel Moïse, et Moïse demande que ce fardeau soit partagé avec les 70 anciens, et Eldad et Médad qui prophétisent dans le camp, eux qui n'avaient pas été convoqués. Cette parole magnifique de Moïse, et prophétique s'il en est, « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Cette prophétie magnifique, elle se réalise dans la Nouvelle Alliance, parce que par le baptême, nous avons été, chacun d'entre nous, investis de cet Esprit Saint pour témoigner avec force de la grâce que Dieu nous a faite et pour être les témoins de sa lumière, de sa vérité, de son amour en ce monde. Jésus l'a dit aussi dans l'Évangile, qu'il ne faut pas empêcher ceux qui font des miracles en son nom, parce que tous ceux qui sont donc qui ne sont pas contre le Seigneur sont pour lui. La frontière, vous le voyez, entre ceux qui appartiennent à l'Église, ceux qui ne l'appartiennent pas, est ténue, parce que bien des gens qui ne sont pas dans l'Église, en fait, tendanciellement, parce que la grâce les attire, en fait, en font déjà presque partie d'une certaine manière, même s'ils ont encore à former pleinement cette foi. Quant à nous qui sommes membres de l'Église, il se peut que, à cause de notre péché, nous soyons en quelque sorte en dehors, en quelque sorte, de l'Église à chaque fois que nous péchons, parce que nous sommes des êtres partagés et que la frontière de l'Église passe au beau milieu du cœur de chacun d'entre nous. Nous avons entendu cette parole terrible de Jésus. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Terrible parole qu'il faut remettre dans le contexte juste avant le passage que nous avons entendu. Jésus prend pour modèle les petits-enfants qui venaient au milieu des disciples et Jésus demande de les accueillir pour que lui-même Jésus soit accueilli. C'est l'occasion, frères et sœurs, et je le fais avec douleur, avec tristesse, avec honte, et je dois dire comme vous, j'en suis scandalisé de parler de ce grand scandale de la pédophilie, notamment dans notre Église. Et nous savons combien c'est un scandale qui vient nous heurter chacun d'entre nous, mais surtout et bien avant, ceux qui en ont été les victimes. Parce que cette question de la pédophilie, ce n'est pas seulement le fait de personnes déviantes à un moment donné qui ont eu une faiblesse, que sais-je, ce que l'on pourrait comprendre. Mais c'est, et il faut le dire clairement, un véritable crime. C'est un crime, parce que c'est le fait de salir l'innocence. C'est un crime parce que ceux qui ont été blessés par ceux qui avaient une autorité, des confrères, ont été salis d'une part, mais d'une certaine manière tués dans leur être profond et ont toutes les peines du monde après, en grandissant vers l'âge adulte, à pouvoir restaurer la confiance et tout simplement se restaurer dans leur être profond. C'est un véritable scandale qui nous touche tous. Il faut que justice se fasse devant les hommes, mais aussi devant Dieu, et c'est fort important. Mais c'est en plus aggravé par le fait que des réseaux ont eu cela, même dans l'autorité de l'Église, hélas, mais aussi que certains réseaux veulent promouvoir d'une certaine manière ces choses et par la cooptation entre eux. C'est un véritable scandale qui nous touche, comme je vous le disais, chacun d'entre nous, et je le répète, ce n'est pas de l'ordre d'une faute passagère comme cela, mais c'est un véritable crime. Et il faut le dire haut et fort. Ce qui suppose pour chacun d'entre nous et toute l'Église une véritable conversion intérieure, un temps de pénitence, un temps de jeûne et de prière. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet de lire la lettre de notre Saint-Père le Pape, qui a sorti le 20 août sur cette question, mais également la lettre que les évêques français ont sortie sur cette question douloureuse. Ceci dit, frères et sœurs, une fois que l'on a dit cela, se pose quand même une vraie question. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce que on peut arriver à de telles abominations? Elles ne sont pas le fait, vous le savez, que dans l'Église, tous ceux qui ont une autorité, c'est vrai, hélas, au premier chef dans les familles, vous le savez, c'est vrai dans tous les milieux de l'éducation, quels qu'ils soient, et c'est vrai, hélas, dans l'Église, et peut-être que c'est un retentissement encore plus grand, parce que l'autorité du prêtre ne représente pas que lui-même, mais peut-être, sûrement, représente aussi Dieu, et quelque part, consciemment ou inconsciemment, notre société le ressent, même ceux qui sont contre l'Église et qui veulent la détruire d'une certaine manière. Mais justement, comment en sommes-nous arrivés là? Si nous réfléchissons, comment se fait-il qu'il y a quelques dizaines d'années, dans les années 70, des choses qui sont aujourd'hui purement scandaleuses avaient autrefois pignon sur rue? Il y a eu même des émissions, des journaux qui en ont parlé, des articles qui promouvaient, on peut dire, des pratiques contraires à ce qui est le bon sens, tout simplement, et qui sont aujourd'hui considérées comme perverses. Alors, frères et sœurs, comment ne pas penser qu'il y a là un grave problème de fond qui touche à la question de la sexualité humaine? Parce que peut-être nous avons perdu le sens de Dieu dans notre société, alors nous avons sûrement perdu le sens de l'homme. Et parce que nous avons perdu le sens de Dieu et le sens de l'homme, nous avons perdu le sens de la sexualité humaine qui a été voulue par Dieu comme une chose belle, bonne, donnée par le Seigneur pour exprimer le don de soi, pour exprimer l'amour qui se donne à l'autre, pour exprimer mieux encore l'alliance entre un homme et une femme, l'alliance de ce mariage qui est signe de cette alliance merveilleuse entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, la sexualité humaine, vue dans le plan de Dieu, est une chose extraordinaire, très belle. Et là, nous sommes coincés entre deux choses. Ceux qui ont mon âge ou au-dessus, on n'en a jamais entendu parler, ou presque, parce que c'était une question taboue, et jansénisme en plus aidant. Donc on n'en parlait pas, on mettait tout sous le boisseau, on taisait ces choses, d'une part. Mais aujourd'hui, à cause plutôt de la révolution sexuelle, eh bien, tout est débridé, tout est permis, tout est possible, tout est vu, tout est entendu. Aujourd'hui, il suffit de cliquer sur Internet pour accéder à n'importe quoi, y compris les enfants dans les écoles avec leur smartphone. On s'étonne, frères et sœurs, qu'il y ait des porcs dans la porcherie. C'est une énorme porcherie aujourd'hui, parce que tout est public, tout est accessible. Et même nous, les chrétiens, peut-être nous remarquons plus cela, peut-être nous ne sommes pas conscients de cela suffisamment. Où est passée la pudeur? Il y a une saine pudeur. Voyez, frères et sœurs, tout ça pour dire que si nous arrivons dans ces malheurs, dans ces choses-là, c'est parce que sans doute il n'y a plus de conscience de cette grandeur, de cette beauté de la sexualité humaine. comme l'expression, je vous le disais, du don à l'autre, du don de soi, de l'amour livré. Et c'est là où la sexualité humaine est belle et qu'elle ne doit pas être dévoyée. Ainsi, il y a un enjeu fondamental, vous l'avez saisi, d'éduquer les enfants, d'éduquer nos jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent découvrir cette beauté du don, cette offrande de soi, cet amour d'oblation qui, dans le cadre du mariage, parce qu'il y a eu un don définitif, un don radical d'une personne, d'un homme avec une femme, et là peut s'exprimer alors le don des corps, qui est ce sanctuaire sacré, justement, de l'offrande de soi, et qui est la manifestation d'un don plus radical l'un à l'autre, et très beau. Frères et sœurs, c'est une question grave, nous le savons. Nous devons demander au Seigneur cette grâce, chacun d'entre nous, de nous former sur cette question. Nous avons là un outil extraordinaire avec Saint Jean-Paul II, qui nous a donné une anthropologie, une théologie du corps absolument magnifique, que nous n'avons pas encore assez exploitée. Et il était bien dans la ligne du bienheureux Paul VI, combien a été critiqué l'encyclique si célèbre d'Humanae Vitae, et pourtant, même dans l'Église et par des hautes autorités de l'Église, et pourtant, on voit aujourd'hui combien Paul VI était prophète, combien il avait raison, et on mesure aujourd'hui toutes les conséquences de cette déliquescence morale et de ce débridement sexuel. On le voit, non seulement dans ce que nous avons évoqué, mais dans tant d'autres domaines. Frères et sœurs, c'est une vraie question et il nous faut donc la saisir et, comme je vous le disais, nous former à l'école de Jean-Paul II notamment, mais aussi offrir notre prière, offrir notre jeûne. Il y aura des propositions dans ce sens de nos évêques bientôt, et je crois aussi dans le diocèse de Luçon, pour que nous puissions vraiment prier tous ensemble, jeûner, offrir, demander pardon, prier pour que d'abord et avant tout, tous ceux qui ont été victimes de cela puissent se reconstruire et retrouver une sérénité du cœur autant que faire se peut, retrouver la simplicité et la paix du cœur. Et puis nous prions aussi pour qu'il y ait un temps de purification dans l'Église. Demandons à la Sainte Vierge, demandons à tous nos saints patrons, demandons à nos anges gardiens de nous y aider et de faire cet effort de prière, d'offrande, pour que puisse être manifesté au monde. Et là, je retrouve ce que je vous disais au début, le sens de la prophétie, que soit manifesté, que nous soyons des prophètes de cet amour livré, de cet amour de Dieu manifesté dans l'amour humain, dans un amour de don, dans un amour oblatif. Oui, la sexualité humaine est belle, parce que Dieu l'a voulu pour manifester le don de l'amour offert. Alors prions pour que nous soyons des témoins de cette lumière, témoins de la beauté, de la bonté, de l'amour de Dieu pour chacun des hommes. Ainsi soit-il.